France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Connaissez-vous Marcel Schwob? Le nom de l'auteur du livre de Monel est quelque peu tombé dans l'oubli. Au moment de sa mort précoce à 37 ans, en 1905, il était pourtant reconnu et admiré par les plus grands. Stéphane Mallarmé, André Gide, Paul Valéry. Et son influence rayonnait bien au-delà de la France. Faulkner ou Borges ont reconnu tout ce qu'il devait à ses contes et à sa prose. Et c'est précisément pour tenter de sortir cet auteur de l'oubli que l'émission Telle qu'en eux-mêmes se penchait sur la vie et l'œuvre de Marcel Schwob en 1971.
Les amis de Marcel Schwob, Stéphane Mallarmé, Anatole France, André Gide, Paul Valéry, et tant d'autres écrivains, célèbres ou qui allaient le devenir, admiraient la prodigieuse culture de l'auteur du livre de Monel. Ils considéraient cet érudit comme un phénomène. Pourtant, plus de 100 ans après l'anniversaire de sa naissance, en 1868, Marcel Schwob n'est plus qu'un nom, prononcé de plus en plus rarement. C'est sans doute injuste. Et il faut tenter d'expliquer cette méconnaissance. Dès son adolescence, Marcel Schwob se consacra à l'érudition. Il avait une mémoire étonnante, mais il ne savait rien de la vie. Pourtant, sa première grande confrontation avec elle prit le visage de l'amour. Il avait 24 ans. Elle, selon les amis de Marcel Schwob, représentait l'intermédiaire entre l'ouvrière et la prostituée, une tête folle, disait-on. Ceux qui l'ont connue la peignirent comme une petite fille, puérile et gaie, avec des cheveux châtains, des yeux bridés et rieurs. Elle disait de gentilles choses, enfantillage et naïveté. 2 ans après leur rencontre, elle mourut phtisique. Schwob fut désespéré. Mais comme tous les littérateurs, il tira de son désespoir même le livre de Monel, qui sans doute demeure l'ouvrage le moins périssable de son œuvre.
Monel me trouva dans la plaine où j'errais, et me prit par la main. « N'aie point de surprise, dit-elle. C'est moi et ce n'est pas moi. Tu me retrouveras encore et tu me perdras. Encore une fois, je viendrai parmi vous, car peu d'hommes m'ont vue et aucun ne m'a comprise. Et tu m'oublieras et tu me reconnaîtras et tu m'oublieras. » Et Monel dit encore, « Je te parlerai des petites prostituées et tu sauras le commencement. » Bonaparte, le tueur, à 18 ans, rencontra sous les portes de fer du palais royal une petite prostituée. Elle avait le teint pâle et elle grelottait de froid. « Mais il fallait vivre, lui dit-elle. » Ni toi ni moi, nous ne savons le nom de cette petite que Bonaparte emmena par une nuit de novembre dans sa chambre, à l'hôtel de Cherbourg. Elle était de Nantes, en Bretagne. Elle était faible et lasse, et son amant venait de l'abandonner. Elle était simple et bonne. Sa voix avait un son très doux. Bonaparte se souvint de tout cela, et je pense qu'après, le souvenir du son de sa voix l'émut jusqu'aux larmes, et qu'il la chercha longtemps sans jamais plus la revoir dans les soirées d'hiver. Car vois-tu, les petites prostituées ne sortent qu'une fois de la foule nocturne pour une tâche de bonté. La pauvre âne accourut vers Thomas de Quincey, le mangeur d'opium, défaillant dans la large rue d'Oxford, sous les grosses lampes allumées. Les yeux humides, elle lui porta aux lèvres un verre de vin doux, l'embrassa et le câlina. Puis elle rentra dans la nuit. Peut-être qu'elle mourut bientôt. Elle toussait, dit de Quincey, le dernier soir que je l'ai vue. Peut-être qu'elle errait encore dans les rues. Mais malgré la passion de sa recherche, quoiqu'il bravât les rires des gens auxquels il s'adressait, Anne fut perdue pour toujours. quand il eut plus tard une maison chaude, il songea souvent avec des larmes que la pauvre Anne aurait pu vivre là près de lui, au lieu qu'il se la représentait malade ou mourante ou désolée dans la noirceur centrale d'un bordel de Londres. Elle avait emporté tout l'amour pitoyable de son cœur. Vois-tu, elles poussent un cri de compassion vers vous et vous caressent la main avec leurs mains décharnées. Elles ne vous comprennent que si vous êtes très malheureux. Elles pleurent avec vous et vous consolent. La petite Nelly est venue vers le forçat Dostoïevski, hors de sa maison infâme, et mourante de fièvre, l'a regardée longtemps, avec ses grands yeux noirs tremblants. La petite Sonia, elle a existé comme les autres, a embrassé l'assassin Rodion après l'aveu de son crime. « Vous vous êtes perdu, » a-t-elle dit avec un accent désespéré. Et se relevant soudain, elle s'est jetée à son cou et l'a embrassé. « Non, il n'y a pas maintenant sur la terre un homme plus malheureux que toi, » s'est-elle écriée dans un élan de pitié. Et tout à coup, elle a éclaté en sanglots. Comme Anne, et celle qui n'a pas de nom et qui vint vers le jeune et triste Bonaparte, la petite Nelly s'est enfoncée dans le brouillard. Dostoïevski n'a pas dit ce qu'était devenue la petite Sonia, pâle et décharnée. Ni toi ni moi, nous ne savons si elle put aider jusqu'au bout Raskolnikov dans son expiation. Je ne le crois pas. Elle s'en alla très doucement dans ses bras, ayant trop souffert et trop aimé. Aucune d'elles, vois-tu, ne peut rester avec vous. Elles seraient trop tristes. Elles ont honte de rester. Quand vous ne pleurez plus, elles n'osent pas vous regarder. Elles vous apprennent la leçon qu'elles ont à vous apprendre, et elles s'en vont. Elles viennent, à travers le froid et la pluie, vous baiser au front et essuyer vos yeux, et les affreuses ténèbres les reprennent, car elles doivent peut-être aller ailleurs. Vous ne les connaissez que pendant qu'elles sont compatissantes. Il ne faut pas penser à autre chose. Il ne faut pas penser à ce qu'elles ont pu faire dans les ténèbres. Nelly dans l'horrible maison. Sonia ivre sur le banc du boulevard. Anne rapportant le verre vide chez le marchand de vin d'une ruelle obscure était peut-être cruelle et obscène. Ce sont des créatures de chair. Elles sont sorties d'une impasse sombre pour donner un baiser de pitié sous la lampe allumée de la grande rue. En ce moment, elles étaient divines. Il faut oublier tout le reste. Monelle se tut et me regarda. Je suis sortie de la nuit, dit-elle, et je rentrerai dans la nuit. Car moi aussi, je suis une petite prostituée. Et Monelle dit encore, j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi, mon aimé. Cependant, je rentrerai dans la nuit, car il est nécessaire que tu me perdes avant de me retrouver. Et si tu me retrouves, je t'échapperai encore, car je suis celle qui est seule. Et Monelle dit encore, parce que je suis seule, tu me donneras le nom de Monelle. Mais tu songeras que j'ai tous les autres noms, et je suis celle-ci, et celle-là, et celle qui n'a pas de nom. Et je te conduirai parmi mes sœurs qui sont moi-même, et semblables à des prostituées, sans intelligence. Et tu les verras tourmentées d'égoïsme et de volupté et de cruauté et d'orgueil et de patience et de pitié, ne s'étant point encore trouvées. Et tu les verras aller se chercher au loin. Et tu me trouveras toi-même, et je me trouverai moi-même. Et tu me perdras, et je me perdrai. Car je suis celle qui est perdue sitôt trouvée. Et Monelle dit encore, en ce jour, une petite femme te touchera de la main et s'enfuira, parce que toutes choses sont fugitives. Mais Monelle est la plus fugitive. Et avant que tu me retrouves, je t'enseignerai dans cette plaine et tu écriras le livre de Monelle.
Thank you.
C'est encore dans l'amour que Marcel Schwab va guérir son premier chagrin. On lui présente une actrice au profil d'égyptienne, Marguerite Moreno. C'est le coup de foudre, l'amour absolu, l'amour fou, comme l'aurait défini André Breton. Schwab écrivait sans cesse le nom de celle qui, désormais, remplissait ses pensées et sa vie.
Je m'ennuie. Je m'ennuie, Marguerite, sitôt que je ne suis plus avec toi. Que faire, c'est affreux, je sens que je ne dormirai pas cette nuit. J'ai ta fièvre. Je te parle pendant que je ne dors pas, je te dis que je t'aime, oui, je t'aime éperdument. J'ai parlé de l'amour avant toi, mais je ne savais pas ce que c'est. Je sens que je pourrais être assassin, voleur, incendiaire, et j'ai peur. J'ai peur parce que je ne me sens pas digne de toi. Tu es si jolie. Tous les jours, tu es plus jolie et autrement. Voilà ce qui me fait peur. Je suis toujours le même et je voudrais inventer de nouveaux mots pour te plaire. Des mots transparents de cristal, chérie. Des mots sanglants. Words of springs. Words white like stones. Je ne pense qu'à toi. À ta petite signature, Marg. Comme manger à demi par tes dents fraîches. Rien faire en t'attendant que t'écrire. Je suis plein de toi. J'ai si peur que tu ne viennes pas et j'ai tant besoin de t'embrasser tendrement. Marguerite, je t'aime. Comment te le répéter assez souvent? Je t'aime mortellement. Ton intelligence et ta clairvoyance m'épouvantent. Tu vois en moi mieux que moi-même. Chérie, tu aspires mon âme dans tes baisers et tu me la rends radieuse dans un chuchotement. Le bienheureux petit bruit de ta clé ne vient pas. Marguerite, je suis fou de toi. C'est affreux, je suis égaré, je tremble, et je ne pense qu'à toi, qu'à ton nom. Sitôt que tu n'es plus là, je t'écris. Et tes lettres sont si courtes. Elles me font si peu vivre avec toi pendant que tu n'es plus là. Je t'aime, Marguerite, de toutes les forces de mon âme. Si tu savais comme je m'ennuie sans toi, comme toutes les conversations me paraissent sottes et fades quand je songe à tes paroles. Mon cœur, je suis trop heureux. Oh, ça ne m'est jamais arrivé. Et j'aime tes lettres, ma chérie, je les adore, je les relis tout le temps. Dieu, que tu écris bien, comme tu sais dire. Mais mes paroles s'en vont, errantes sur le papier. Je t'aime de tous les côtés à la fois, tu m'entoures. Sais-tu que je ne vois plus rien dans la rue? Je marche dans toi. Je vais me hâter, faire l'impossible pour que nous soyons ensemble toujours. Je haïrai ceux que tu haïs. J'aimerai ceux que tu aimes. Je pense à tes cheveux. J'en suis fou, chérie. Chérie, je voudrais être à demain. Nous vivrons un peu ensemble. Crois-tu que tout cela soit vrai? C'est si inexprimablement doux. Il y a des miracles? Oui, il y en a. Il est arrivé un miracle entre toi et moi, Marguerite. Moi qui suis mesuré, comme tu l'as dit, avec ton intelligence si profonde, je t'aime démesurément. Je te le jure, je ferai ce que tu voudras, tu m'entends? Je ne m'appartiens plus, je n'ai peur de rien que d'une chose, ne me quitte jamais. Ou tue-moi avant de me quitter. Je voudrais être tué par toi parce que la mort ce serait encore toi. N'est-ce pas que nous ne savons pas ce qui nous arrive? Il me semble que j'entre dans un pays inconnu. Ma chérie, mon amour est très terrible parce que je ne sais pas où il va. Tout mon corps et tout mon cœur sont dans mon cœur. Vois-tu, je t'aime et je ne peux pas dire plus.
Marcel Schwab délire. Il demande à Marguerite: promets-moi que tu me donneras la plus haute volupté qui puisse exister, que tu me tueras dans notre rêve. Bien des années plus tard, Marguerite Moreno se souvenait à son tour.
On a écrit beaucoup de choses sur Marcel Schwab. Sa vie si brève, si tragique, a déjà passé dans le domaine de la légende. Chaque jour, me cite des faits ou des dits qui sortent de l'imagination de ses contemporains, surtout de l'imagination de ceux de ses contemporains qui ne l'ont jamais approché. Ces inexactitudes ne m'indignent pas. Elles sont à la fois la marque et la rançon de la gloire. Marcel Schwab en eût été presque fier, lui qui pressentait si nettement sa fin prématurée et qui souhaitait la durée de l'épanouissement de son effort, par-delà cet effort et par-delà la vie. Dans la préface des Vies imaginaires, il dit son goût passionné pour les biographies vivantes, pour ces portraits d'hommes célèbres que d'humbles admirateurs ont peints pour la postérité avec les seules couleurs de la vérité familière. Retracer la carrière d'un artiste, disait Marcel Schwab, suivre le fil de sa pensée, c'est le rôle du critique, de l'historien. La tâche du biographe est autre. Il doit faire revivre à nos yeux l'homme tel que la nature et les habitudes quotidiennes l'ont fait et l'ont formé, avec son entourage, ses méthodes de travail, ses manies même. Il doit nous le présenter à toutes les heures du jour et surtout à celles où apparaissent le moins les signes de son génie. Il établit ainsi une sorte d'intimité entre son héros et la postérité. Marcel Schwab avait raison. Il savait la joie que donne la curiosité satisfaite et le plaisir que procure un détail marqué au sceau de la vérité. C'est cette curiosité que je voudrais satisfaire, ce détail que je voudrais noter. Au moment où je le connus, Marcel Schwab était gros et portait la moustache. Sa ressemblance avec le prince Victor Napoléon était saisissante. Seul, l'origine sémite que révélait son nez busqué l'éloignait du type napoléonien. Il avait des mains charmantes, blanches et fines, un sourire mélancolique qui découvrait des dents parfaites. Il s'habillait mal et portait avec étonnement et une orgueilleuse gaucherie le poids de sa jeune gloire. Mais un sortilège était caché dans son regard. Ne l'eût-on approché qu'un instant, on se souvenait de ses yeux, bleus comme le ciel d'un lointain orient, cruels et perspicaces, tendres et pathétiques. Lorsque la maladie eut rongé son visage et qu'un masque de douleur se fut posé pour toujours sur ses traits, tout ce qui demeurait en lui, d'amour, d'ardeur, de désir de vivre, de besoin d'apprendre, s'était réfugié dans ses prunelles claires et profondes qu'aucune peinture n'eût pu reproduire fidèlement, parce qu'elles étaient seulement le moyen qu'employait pour se révéler son âme mystérieuse et multiple. Il habitait rue de l'Université une sorte d'antre sombre, écrasé entre deux étages. On y marchait sur des livres, on s'y asseyait sur des livres, le lit même était caparaçonné de livres. Un tout petit coin d'une toute petite table représentait le bureau. Et encore, ce tout petit coin était-il souvent couvert et caché par un livre. Au milieu de ce flot de papier imprimé, Marcel Schwab était dans son élément. Jamais d'ailleurs il ne vécut sans que sa chambre et son cabinet de travail fussent tapissés de livres, écrits dans tous les langages connus, reliés ou brochés, anciens ou modernes. En voyage, il transportait à la grande désolation des facteurs de gare une énorme valise bourrée de livres et de manuscrits, pesante comme si elle eût été de plomb. Il emportait aussi un bagage inattendu. Son petit chien rouge, Flip, qui était gros comme le poing, et ne quittait pas son épaule tout le temps qu'il travaillait. Mais avant d'entreprendre ses courses à travers le monde, il entreprit des voyages à travers Paris. Un jour, il quitta son demi-étage pour aller habiter rue Vaneau. Là aussi, le papier régnait en maître. Des objets minuscules et rares encombrèrent tous les coins que les livres et les manuscrits n'avaient pas envahis. Il y fut resté longtemps si le bruit, terrible, en cette rue tranquille, ne l'en avait chassé. Ce bruit infernal était causé par l'incessant passage de camions, de charrettes, de haquets, de fardiers, de tombereaux, en somme de tous les véhicules les plus lourds et les plus pesamment chargés qui bondissaient sur les pavés parmi les jurons des conducteurs et les coups de fouet des charretiers.
Thank you.
Grand malade, Schwab continue à écrire. Après avoir publié Les vies imaginaires, qui ont beaucoup perdu de leur charme aujourd'hui, il fait paraître un recueil de contes qu'il intitule Cœur double. Il est difficile de comprendre en 1971 le succès qu'ils rencontrèrent. En voici un, Spiritisme, peut-être le moins sophistiqué.
Je trouvais sur ma table en rentrant une invitation du cercle spirit. Nous avions joué au poker et il était très tard. Néanmoins, je fus tenté par la curiosité. Le programme annonçait un spectacle distingué, une évocation surprenante d'esprit. Il me passa par la tête l'envie de causer avec une demi-douzaine de célébrités disparues. Je n'avais jamais vu de séance spirit et je n'étais pas fâché de cette occasion. Quoique j'éprouvasse un certain picotement des paupières, un tremblement assez caractérisé des mains, et que mon cerveau me parut noyé dans un brouillard suffisamment fumeux, je crus pouvoir affronter la conversation et je préparai mentalement quelques cols pour les âmes qui manqueraient de mémoire. Le cercle spirit est un endroit singulier. On vous débarrasse de votre canne à l'entrée de peur que vous frappiez à contre-temps. Lorsque j'arrivais, la séance était déjà fort avancée. Il y avait autour d'une table en noyer une dizaine d'individus, les uns très chevelus, les autres très chauves, qui avaient la mine excitée. Sur un guéridon à droite, une soucoupe renversée était marquée des lettres de l'alphabet crayonnées au charbon. Une personne pâle se tenait au milieu, un carnet d'une main, un crayon de l'autre. Je reconnus Stéphane Wenecox, le banquier Colley Wobbs, Herr Professor Zanwer, et je fus frappé de l'absence de linge, des redingotes qui semblaient boutonnées sans boutons et des yeux qui fleuraient l'absinthe. Comme je m'asseyais sur une chaise qui apparemment n'était animée d'aucun mouvement, l'un des individus me toucha l'épaule et m'apprit que la personne pâle qui tenait un carnet se nommait Monsieur Médium. Je le remerciai poliment et je le remis aussitôt. C'était un de mes anciens camarades de collège, non pas l'un des plus forts. Il avait eu l'habitude autrefois de rythmer la classe avec des roulements de pieds. Je le lui rappelai et il sourit d'un air de supériorité en me disant que ces bruits devaient être attribués aux esprits frappeurs. Un autre membre du cercle, qui portait une rosette multicolore mais dont le col de chemise semblait s'être converti par une progression de teinture lente en prolongement de son habit, me proposa d'évoquer quelques-unes de mes connaissances. J'acceptai. Et me dirigeant vers la table, je demandai à haute voix si Gerson était présent. Il y eut un chuchotement parmi les membres du cercle. Monsieur Médium me regarda fixement et je crus voir qu'on demandait des renseignements à mon camarade. Monsieur Médium s'assit, planta son crayon debout sur le carnet tandis que nous restions muets autour de lui. Puis tout à coup, il fut pris d'une danse de Saint-Guy et son crayon fournit l'assortiment de signes le plus hétéroclite que j'ai jamais vu. Il considéra ce grimoire et déclara que les esprits étaient allés chercher M. Gerson qui viendrait bientôt en personne spirituelle. Au bout d'une heure et demie environ, la table donna des signes évidents de fatigue. On ne l'entendait pas souffler, mais M. Gerson devait avoir les bras rompus et les derniers coups ressemblaient au petit bruit d'une pipe qu'on fait claquer sur l'ongle. Monsieur Médium nous dit qu'il avait enregistré le nombre extraordinaire de 2255, ce qui donnait 451 ans, coup pour coup. Il me demanda ensuite si je désirais savoir le mois, le jour et l'heure, mais je préférais y renoncer. Je m'avançai vers la table habitée par Monsieur Gerson et je lui dis d'une voix très douce, « Monsieur Gerson, je suppose que vous me comprenez même si je ne parle pas latin. » Il y a une question qui me tourmente beaucoup. Pouvez-vous me dire si vous êtes vraiment l'auteur de l'imitation ou si c'est un de vos amis ? Gerson ne répondit pas aussitôt parce que M. Médium était en train de passer avec lui une série de conventions alphabétiques. Une fois la communication établie, la table s'abaissa un certain nombre de fois, puis s'arrêta. M. Médium nous dit que les esprits étant agités ce soir ne voudraient plus parler et il éteignit le gaz de l'établissement. Après avoir tâtonné dans l'escalier très étroit, je retournai me coucher lorsque je fus accosté par mon camarade. Il me dit que son hôtel devait être fermé et me demanda si je ne pouvais pas le recevoir. Je l'emmenai et je le couchai dans ma chambre sur un divan matelassé. Sitôt que je fus au lit, Je m'endormis d'un profond sommeil, et au bout d'un temps, il me sembla voir de la lumière et entendre souffler. Je me dressai. Mon camarade, en chemise, agenouillé devant le guéridon de nuit, le caressait à petits coups de main en murmurant « Là, là, et là, là, là !»« Mais qu'est-ce que tu fais ? » criai-je. « Mais c'est le guéridon qui tourne, » dit-il. J'essaie de le calmer. « Ah, tu veux tourner, tu ne veux pas t'arrêter. Oust, par la fenêtre !» Le guéridon vola contre les vitres. Je lui dis, voyons, il est inutile de causer avec les meubles. Les meubles n'ont pas d'oreilles, on ne peut pas expostuler avec eux. Ne dérange pas mon mobilier. Les meubles les mieux fabriqués n'entendront jamais raison. Mais il continua, posément, sans répondre. Après avoir fait tchhh pendant quelque temps, il caressa la table. Voulut la calmer, puis saisi de fureur, la précipita par les carreaux. Je l'entendis se briser sur le pavé. Je lui dis de nouveau, à quoi cela sert-tu? Laisse-moi mon armoire à glace, ma table de toilette. Je te garantis leur moralité, elles ne tourneront jamais, mais elles ne t'écouteront pas, ne les jette pas dans la rue. Il ne répondit rien, parla à l'armoire, et l'envoya se fracasser sur le trottoir, dit quelques mots à la toilette, puis la projeta vers le balcon. Enfin, il devint giroyant lui-même, s'invectiva, les yeux hagards, essaya de s'empêcher de tourner, et d'un seul bond s'envoya à travers la croisée, la tête la première, dans le vide. C'est le seul spirit que j'ai vu mourir. J'espère qu'ils ne détruisent pas toujours leur mobilier auparavant. Je regrette beaucoup le mien. Il était de pure époque Louis XV. En tout cas, je suis heureux de pouvoir prier les cercles spirites par la voix de ce papier, d'expédier dorénavant leurs invitations ailleurs que chez moi.
L'influence de Marcel Schwab, son rayonnement furent déterminants, et bien des vocations, celles de Paul Valéry notamment, leur doivent leur autorité. Schwab avait le don de proposer des aperçus nouveaux, de découvrir les trésors cachés des littératures étrangères. C'est ainsi qu'il s'est appliqué, péniblement il est vrai, à traduire les drames les plus célèbres de Shakespeare. Il traduisit, non sans préciosité, Macbeth et Hamlet. C'est le dialogue d'Hamlet et d'Ophélie qui justifie, sans convaincre, cette précieuse traduction. Être ou ne pas être, c'est la question. Est-il d'âme plus noble de subir les coups et les traits de l'outrageuse fortune ou de prendre les armes contre un océan de peine et révolté, les finir? Mourir, dormir, pas plus, et par endormir se dire que c'est la fin de l'angoisse du cœur et des mille secousses naturelles à qui la chair est asservie, c'est une consommation à souhaiter dévotement. Mourir, dormir. Dormir, qui sait? Rêver, oui, voilà l'obstacle. Car dans ce dormir de la mort, quels rêves peuvent venir quand nous avons secoué cet enlac si mortel? De là vient qu'on hésite. Voilà le scrupule qui donne au malheur une si longue vie. Et qui supporterait les soufflets et les avanies du temps, le tort de l'oppresseur, le mépris de l'homme fier, les affres de l'amour méprisé, les atermoiements de la loi, l'insolence des gens en place et les coups de pied que le mérite patient accepte de l'indigne quand lui pourrait à lui-même se donner quittance avec la pointe d'un petit couteau. Qui voudrait porter le fait à années et suer sous une accablante vie si ce n'est que la peur de quelque chose après la mort? La région non découverte des confins de laquelle aucun voyageur ne retourne balance la volonté et nous fait plutôt supporter ces maux que nous avons que voler vers d'autres que nous ne connaissons pas. Ainsi la conscience fait des lâches de nous tous, et ainsi le teint naturel de la résolution s'étiole sous l'ombre pâle de la pensée et des entreprises de fortes moelles, de grands mobiles. À cette appréhension détournent leur cours et perdent leur nom d'action. Doucement maintenant, la belle Ophélie. Nymphe,
dans tes oraisons, tous mes péchés sont-ils rappelés?
Mon bon seigneur, comment va votre honneur depuis ces malheureux jours?
Je vous remercie humblement, bien, bien, bien.
Mon seigneur, j'ai des souvenirs à vous que j'ai longtemps langui de vous rendre. Je vous en prie maintenant, reprenez-les.
Non, pas moi. Je ne vous ai jamais donné rien.
Mon honoré seigneur, je sais trop bien que si. Et tout ensemble des paroles mêlées de si douce haleine qu'elles faisaient tout cela plus riche. Leur parfum perdu, reprenez-les. Car à l'âme noble, les dons riches se font pauvres quand les donneurs se montrent cruels. Voilà, mon seigneur.
Êtes-vous honnête?
Monseigneur.
Êtes-vous jolie?
Que veut dire votre seigneurie?
Que si vous êtes honnête et jolie, votre honnêteté ne devrait point admettre de discours à votre beauté.
La beauté, monseigneur, serait-elle avoir meilleur commerce qu'avec l'honnêteté?
Oui, vraiment. Car le pouvoir de la beauté plutôt transformera l'honnêteté de ce qu'elle est en catin. Que la force de l'honnêteté ne transmuera la beauté à lui ressembler. Ceci fut jadis un paradoxe. Mais maintenant, le temps en fait la preuve. Je vous ai aimé autrefois.
Vraiment, monseigneur, vous me l'avez fait croire.
Vous n'auriez pas dû me croire. Car la vertu ne saurait en se greffer à notre vieux cépage qu'il ne sente son fruit. Je ne vous aimais pas.
Je n'en ai été que plus déçue.
Va-t'en dans un couvent. Pourquoi voudrais-tu être génératrice de pécheurs? Je suis moi-même suffisamment honnête et pourtant je pourrais m'accuser de choses telles. Que mieux vaudrait que ma mère ne m'ai pas enfanté. Je suis très fier, vindicatif, ambitieux, avec plus de crimes sous la main que je n'ai de pensée pour les y loger, d'imagination pour y donner forme, ou de temps pour les y réaliser. Compte à faire des gens comme moi de ramper entre ciel et terre. Nous sommes de fiers coquins tous, ne crois pas un de nous. Va à ton chemin dans un couvent. Où est votre père?
Chez nous, monseigneur.
Ah, faites fermer les portes sur lui, qu'il ne fasse l'imbécile ailleurs que dans sa maison. Adieu.
Oh, secourez-le, douceur du ciel.
Si tu te maries, je te donne cette peste pour dot. Sois chaste comme la glace, pure comme la neige, tu n'échapperas pas à la calomnie. Va-t'en dans un couvent, va, adieu. Ou si tu veux à toute force te marier, marie-toi un sot, car les sages connaissent assez bien quel monstre vous faites d'eux. Au couvent, allons, et vite encore. Adieu!
Oh, pouvoir céleste, restaurez-le!
J'ai entendu parler de vos maquillages aussi. Oui, bien! Dieu vous a donné un visage et vous vous en faites un autre. Vous allez la gigue, l'amble, et vous essayez et vous donnez des sobriquets aux créatures de Dieu. Et la plus dévergondée fait la plus ignorante. Allez. Allez, je n'en soufflerai plus mot. Cela m'a rendu fou. Dites donc, nous n'aurons plus de mariage. Ceux qui sont déjà mariés, excepté un, on les laissera vivre. Les autres resteront comme ils sont. Au couvent! Allez!
Oh, le noble esprit que voilà en déchéance. Homme de cour, clair, soldat, par l'œil, par la langue, par l'épée. Espérance et rose de ce royaume, miroir d'élégance et modèle des formes, point de mire de tous les admirateurs, si loin tombé. Et moi, de toutes les dames la plus tristement esselée, moi qui aspirais le miel musical de ses vœux, maintenant je vois cette noble raison souveraine comme de douces cloches rompues d'harmonie discordante. Cette forme sans père, cette statue de jeunesse fleurie, flétrie par le délire. Oh, pitié de moi d'avoir vu ce que j'ai vu, de voir ce que je vois.
Très malade, Marcel Schwab continue à écrire et forçant l'admiration de ses amis à les inspirer. Son grand, son fidèle amour, Marguerite la bien-aimée, n'oublia jamais les dernières et les plus cruelles années de sa vie.
Le mal commençait à torturer Marcel Schwab. Avide de silence, il fut rue du Bac. Dans un appartement entre cour et jardin, il pouvait espérer le calme. Hélas, un mauvais génie avait accumulé dans ce lieu d'apparence si paisible tout ce qui peut empêcher une créature humaine de dormir et de travailler. La cloche d'un couvent voisin, un perroquet parleur et surtout hurleur installé sur le balcon de la maison contiguë. À l'étage supérieur, de robustes et turbulents gamins que des parents économes et souvent absents chaussaient de fortes galoches et fournissaient abondamment de billes et de chariots. Et, suprême horreur, un concierge qui chantait sans répit sous la fenêtre la valse bleue. C'en était trop. Marcel Schwab avait bien contraint au départ les enfants et leurs indulgents parents en frappant au milieu de la nuit sur un gond énorme pour les plonger, disait-il, dans la terreur et la tristesse. Mais le gond était sans effet sur la cloche et le concierge et de plus excitait singulièrement la verve du perroquet. Il fallut donc déménager de nouveau. Cette fois, il choisit le Palais Royal. Ah, il avait compté sans les jeux des marmots. Leurs cris sauvages, sans le coup de canon de midi, toujours attendu, toujours surprenant, sans l'odeur infâme des cuisines de restaurants pour noces, et sans la musique des bals nuptiaux. De nouveau, il émigra et s'établit dans une vieille et vaste maison de l'île Saint-Louis. C'est là qu'il ferma les yeux et qu'il connut enfin le grand, l'éternel silence. Il aimait les grandes pièces tristes de cet appartement, la rue où rien n'a changé depuis des siècles, les quais, ombre et soleil, où de vieux hôtels moisissent, où se dort. Comme il le faisait partout où il passait, il s'était établi dans la plus petite chambre pour y travailler, pour s'y nicher, pour s'y tapir. Sortant à peine pour aller à la bibliothèque ou aux archives, il restait de longues heures penché sur le papier de fil, qu'il préférait à tout autre parce qu'il est désormais rare et précieux. Et écrivant sans rature, de sa belle petite écriture, nette, ronde et ferme, avec un roseau taillé en calame, à moins qu'il ne lût quelques livres, indéchiffrables pour tout autre que lui. Cette retraite ne le défendait pas contre les visiteurs. Il espérait les uns, redoutait les autres. L'annonce de certains noms éclairait son visage. Le son de certains autres l'assombrissait. Et il a fallu bien du courage à quelques-uns pour affronter d'abord son terrible coup d'œil, ensuite son mutisme hostile, mutisme dont il ne sortait que pour dire un « au revoir, tout semblable, hein, que je ne vous revois surtout plus !» Il prétendait que l'ennui que dégagent les raseurs aggravait son mal. Ce mal mortel, combien de fois Colette le lui fit oublier. Il l'aimait tendrement, la taquinait avec cruauté et l'admirait sans réserve. Elle ne s'asseyait jamais que par terre et il lui permettait de jouer sur le tapis avec un des animaux étranges qui bondissait, rampait ou volait autour de son immobilité forcée. Une chauve-souris, un loir, un lézard, un chat, un écureuil, des chiens, une colombe poignardée, un carnidal, un faucon, des poissons, un singe. Il consentait même à laisser entre ses mains ses oiseaux familiers, de petits masques de fer, gros comme des mésanges. « Je ne laisserai pas toucher, marmottait-il, par un de ces misérables qui attirent les moineaux dans les jardins publics. Ce sont tous des satyres ou des reprises de justice. » Sensible à la faveur que lui faisait son sévère ami, Colette l'en récompensait en lui disant des choses ravissantes et en lui prêtant la gaieté de sa belle et violente jeunesse. Avec elle, il retrouvait le rire de ses 20 ans, joyeux et féroce. Il lui confiait sa terreur de cuisinière, apte, disait-il, à empoisonner leur maître avec du café ou des épinards. Il évoquait devant elle les années de collège, les farces faites aux professeurs ou aux pions, son passage au régiment où il fut si malheureux et si mal compris, qu'il en garda une horreur profonde du métier militaire et du grade de sous-officier en particulier. Il a été cependant officier de réserve. Le patriotisme a vaincu ses rancunes. Mais je crois bien qu'aucun des hommes qui l'eut sous ses ordres ne connut la salle de police pendant ses périodes d'exercice. Il se souvenait. Et son âme tendre connaissait toutes les nuances de la pitié. À mesure que la maladie l'obligeait à rester davantage chez lui, des amis de plus en plus nombreux se groupaient autour de son fauteuil. Leur liste est longue et faite de noms célèbres, dont beaucoup, hélas, sont gravés sur des tombes. On venait lui demander des conseils, le consulter sur un point d'histoire, sur une difficulté philologique. Il savait tout. Et, ce qui vaut mieux, il comprenait tout. Je me souviens du jour où Jarry vint lui lire son Uburoi. Il riait aux larmes de cette grosse plaisanterie d'écolier, mais non de son auteur dont les belles phrases le charmaient. Je me souviens aussi du soir où il me lut « Tête d'or » de Claudel, où il prédit le succès des œuvres futures de son ami. Il est rare qu'il se soit trompé sur l'avenir d'un jeune écrivain, si éloigné du sien propre que fut son talent. Il était juste et désintéressé. Marcel Schwab fit de grands voyages. Le plus long, le plus lointain, le mena vers Samoa, cette île où Stevenson vécut longtemps et mourut trop tôt. Il était parti avec son domestique chinois, Ching Tseing, qui fut chargé au départ, de veiller sur son maître d'abord, sur les innombrables bagages ensuite. Pendant les mois d'absence, il veilla sur les deux, il garda la face. Le maître, tombé malade en route, trouva chez le serviteur jaune du dévouement et du désintéressement. Les bagages trouvèrent un gardien fidèle qui rapporta au logis le nombre exact des objets confiés. Seulement voilà, ces objets n'étaient plus les mêmes. On m'a volé, Missy. Alors, j'ai complété la liste. Tout y est. Cette aventure remplissait de joie Marcel Schwab. Et une fois, en dépliant une serviette marquée « Club allemand Melbourne », il s'écria « Ce n'est pas l'Alsace-Lorraine, mais c'est déjà quelque chose qu'on leur a repris ». Hélas, le nomade accomplit son dernier voyage. Il repose, délivré des douleurs, laissant la trace lumineuse de son court passage dans le monde des humains, grâce à ses œuvres si pures et si hautes. Et nous sommes encore quelques-uns à voir briller dans l'obscurité du passé son merveilleux, son insondable regard.
C'était « Tel qu'en eux-mêmes », une émission de Philippe Soupeau et Jacques Fayet, réalisée par Guy Delaunay, avec les voix de France Desco, Olivier Pierre, Lily Sioux. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 avril 1971.